Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse ce vendredi 21 avril 2017. Deux thèmes ont été retenus pour vous ce soir, à savoir Kasaï Central, la famille de feu Jean-Pierre Pandi Kamwena Sapu, annonce avoir exhumé, retiré les restes du corps de leur frère tué au mois d'août dernier. Elle annonce aussi par la même occasion le nom du nouveau chef Kamwena Sapu en la personne de Jacques Kabeya Wansumba Mupala. C'était dimanche dernier à l'issue des négociations menées par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur en ce jour au Kasaï Central. Et dans notre deuxième et dernier thème, il sera question de la décision du gouvernement congolais à travers un décret signé le 4 avril dernier par le premier ministre sortant, Sami Badibanga. La RDC autorise à nouveau l'importation des véhicules vieux de plus de 10 ans. Selon le vice-premier ministre et ministre des Transports, cette mesure vise à aider la population congolaise. Il dit aussi que cela va booster l'économie de la RDC. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Claude Molichaud, journaliste à la RTNC, la chaîne nationale et coordonnateur des communicologues du 3e millénaire. Claude Molichaud, bonsoir.
Bonsoir, Madame Kelly.
J.R. Mokolo, journaliste à Canal Congo Télévision. Bonsoir, J.R. Mokolo.
Bonsoir, Kelly. Bonsoir, Claude Molichaud. Et bonsoir, Jean Domba.
Jean Dombassi, manager à la radio communautaire de Mwanza, émettant à Mwanza au Congo central. Jean Dombassi, bonsoir. Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse a commenté les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Batté.
Bonsoir. L'annonce à Kananga de la désignation du nouveau chef Kamwena Sapu et les décrets du premier ministre sortant Sami Badibanga autorisant l'importation des véhicules vieux de plus de 10 ans ont défrayé la chronique cette semaine. La rencontre Freddy Matungulu et Bruno Tshibala fait aussi couler beaucoup d'encre et de salive. Ainsi, Radio Capiponet annonce qu'au Kasaï Central, Jacques Kabeya Ntumba Mupala est désigné successeur du chef Kamwena Sapu et de préciser que la famille régnante du chef coutumier feu Jean-Pierre Pandi Kamwena Sapu a désigné le successeur du chef coutumier tué dans les affrontements avec la police au mois d'août 2016. Elle a, par la même occasion, annoncé avoir exhumé, retiré et enterré les restes du corps de leur frère dans la nuit du samedi 15 avril 2017 dans son village. Ce site annonce que, toujours au Kasaï, l'ONU identifie 17 nouvelles fosses communes et met en cause de l'armée. C'est ainsi que Tempête des Tropiques, pour sa part, rapporte que suite à la lenteur de l'enquête nationale, l'ONU prête à saisir la CPI sur les tueries du Kasaï. Dans une déclaration faite mercredi 19 avril 2017 à Genève, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a condamné les violences et les tueries au Kasaï. Il a au même moment menacé de solliciter l'intervention de la Cour pénale internationale au cas où une enquête nationale sérieuse ne serait pas diligentée pour poursuivre toutes les parties impliquées dans les violences. Sur le chapitre de l'importation des véhicules, Badibanga prend Matata à contre-pied en autorisant l'importation des véhicules de plus de 10 ans, estime le site 7sur7.cd qui affirme que c'était l'un des marqueurs du gouvernement Augustin Matata Ponyo que l'ex-premier ministre Sami Badibanga a fait sauter. Cette mesure, prise en 2012 pour notamment lutter contre la pollution et les accidents, a été abrogée le 4 avril 2017 par un décret signé par le premier ministre Sami Badibanga et contre signé par quatre de ses ministres. Sur le chapitre des tractations pour le prochain gouvernement, le potentiel titre à sa une, gouvernement Bruno Tshibala, des politiciens prédateurs se bousculent. Ce quotidien rapporte que les consultations menées la semaine dernière par le premier ministre Bruno Tshibala ont révélé une bousculade dans les chefs des candidats ministrables. Sur le même chapitre, 7 sur 7.cd annonce gouvernement Freddy Matungulu chez le premier ministre Bruno Tshibala. Et ce site de commenter que les défilés nocturnes et diurnes assumés et non assumé des personnalités de l'opposition incarnées par le rassemblement dirigé par Félix Tshisekedi se poursuit chez le premier ministre Bruno Tshibala. Il a rencontré Freddy Matungulu le 20 avril à l'hôtel Palace dans sa suite présidentielle. Le rassemblement Kasavubu compte sur cet expert du FMI pour restaurer le cadre macroéconomique de la RDC, exploit qu'il avait réalisé en 2001. Merci, c'est la fin de cette revue de presse.
Merci Guy Maté pour ce journal des journaux. Autre sujet d'actualité, c'est la suspension de la coopération militaire avec la Belgique. Ainsi on a décidé le gouvernement congolais. Claude Moulicho, comment vous analysez cette décision du gouvernement?
Bon, Madame Kelly, il faut prendre cette décision dans son contexte parce que ici, il y a eu des réactions qu'on a enregistrées de partout après la nomination de M. Bruno Tshibala comme Premier ministre. Il y a certains pays qui ont affirmé que ça rentrait pas dans l'esprit et la lettre de l'accord du 31 décembre 2016. Et c'est là que les problèmes s'est posé entre la Belgique et la République démocratique du Congo. Didier Reynders a réagi contre cette nomination. Alors le gouvernement congolais a mal accueilli cette réaction. Je me dis personnellement que la République démocratique c'est un pays souverain et la Belgique ne pouvait pas réagir de cette façon. Au nom de la souveraineté, moi j'encourage les autorités congolaises de prendre cette disposition. Bon, ce n'est pas tellement un affront, mais c'est une façon de montrer que on n'est pas d'accord avec telle attitude, parce qu'aujourd'hui les Congolais ne peuvent pas aller dire au roi de Belgique et non que Didier Reynders qui quitte ce poste de vice-premier ministre belge qu'on le remplace par quelqu'un d'autre. Non, c'est aux autorités belges de prendre les responsabilités et de nommer qui veut-elle à de tels postes de responsabilité.
J.R. Mukolo, votre réaction par rapport à cette décision du gouvernement congolais?
Oui, moi je me rends compte que c'est une décision qui a été prise sous le coup de la colère. Je ne crois pas qu'elle a été vraiment bien réfléchie, parce qu'il n'y avait pas que la Belgique qui avait remis en question la désignation de Bruno Tshibala en évoquant la violation de l'accord où on n'a pas respecté l'esprit de la lettre. Il y avait aussi l'Union Européenne, il y avait la France, il y avait aussi les États-Unis d'Amérique, donc qui ont aussi commenté cette décision dans les mauvais sens. Donc si on devait s'en prendre, je crois qu'il fallait s'en prendre à tous ces États-là. Pourquoi seulement on a choisi la Belgique? Parce que c'est quoi? C'est un petit pays, selon la vision des Congolais.
La déclaration de Didier Reynders a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
Bon, de toutes les façons, moi je me dis ceci. C'est la main qui donne, qui est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous acceptons, par exemple, le financement venant des Belges et des Occidentaux, mais cette décision, je crois qu'elle ne profite pas au Congo. Au contraire, c'est nous qui perdons cet appui dans la formation de nos militaires.
Merci.
Sûrement qu'on va rapatrier les officiers qui sont en formation en Belgique, donc c'est nous qui sommes en tout cas perdants, parce que c'est nous qu'on assiste, et c'est pas nous qui assistons les Belges.
Merci. Jean Dombassi, vous êtes d'avis que c'est la RDC qui perd après cette décision du gouvernement de suspendre la coopération militaire avec la Belgique?
Oui, affirmatif, hein. C'est nous qui perdons, parce que nous sommes très dépendants des autres. À partir du moment où nous allons nous prendre en charge nous-mêmes, et moi je pense que ce genre d'ingérence n'auront plus sans raison d'être, quoi. Donc les pays doivent s'organiser et puis se prendre en charge en tout et pour tout. Et de cette façon-là, où nous allons mettre fin à cette ingérence-là. Mais lorsque nous dépendons toujours de ces gens-là, c'est pourquoi à tout moment, ils veulent nous donner des leçons, quoi. Voilà.
Claude Moulicho, l'actualité a été aussi dominée cette semaine par l'assassinat de ce médecin gynécologue obstétricien de l'hôpital de référence d'Uvira, docteur Gildo Biamungu, qui a trouvé la mort vendredi dernier dans cet hôpital où il avait été admis après avoir été blessé quelques heures plus tôt par balle par des malfrats dans son domicile. Docteur Gildo était un proche du docteur Mukwege. Décidément, la situation où les assassinats restent récurrents dans l'est, de la partie est de la RDC.
Tout à fait, madame. Ici, au nord Kivu, comme au sud Kivu, il y a encore des gens en armes qui circulent. Et on peut être surpris, soit visiter l'ami chez soi, en domicile, chez soi à la maison, par des bandits, ou soit à des heures tardives, quand on est sur la voie publique, on peut être surpris par des bandits. C'est le cas avec le docteur Gildo Biamungu. C'est dommage, parce que c'est vraiment un gynécologue très très compétent qui assiste beaucoup de femmes violées aux côtés de Dr Mukwege. Et vraiment, c'est regrettable parce qu'on ne connaît même pas les raisons qui ont fait qu'il soit abattu, ce qu'il voulait seulement prendre les biens. Les gens en armes, parce qu'ils sont venus. Et
on dit qu'on a pris son ordinateur, son téléphone portable, quelques documents importants.
Est-ce qu'il gênait? Bon, je ne sais pas les raisons qui ont fait qu'il soit visité, mais c'est dommage de perdre un grand gynécologue comme Dr Yamungo Jiddo. Vraiment, on affiche la compassion de tous les habitants du Sud Kivu, l'hôpital de Panzi et surtout les médecins qui sont en train de pleurer leurs confrères.
Gérard Moukoul, on a appris qu'un suspect a été arrêté. Quel est que vous faites de ce énième assassinat?
Oui, en fait, je suis vraiment indigné par cet assassinat. Comme l'a dit Claude Molicho, c'est un gynécologue qui vraiment accepté d'aller travailler dans la brousse pour aider les femmes qui sont victimes de violences sexuelles. Et c'est quand même curieux que cet homme recevait régulièrement des menaces de mort et qu'il n'y a pas longtemps qu'on lui a retiré sa garde, malgré qu'il continue en tout cas à recevoir des menaces de mort. Et moi, je considère que ce n'est pas un crime crapuleux, donc déjà, qui voulait voler Dr Gilles Donnant, des gens sûrement qui ont commis un meurtre prémédité, qu'on a envoyé pour les supprimer et y déranger je ne sais qui, pour avoir fait quoi. Je ne sais pas, est-ce que le fait, par exemple, de soigner des femmes victimes de violences sexuelles, est-ce que c'est un crime? Bon, vous parlez de l'arrestation d'un suspect. Bon, on a connu beaucoup d'assassinats comme ça dans l'est du pays, même avec les journalistes de Radio Capi, mais à la fin, on mène des enquêtes, on n'arrive pas vraiment à déterminer qui ont commandité cet assassinat, et peut-être on va nous présenter la piste, un second couteau qu'on va condamner pour essayer de brouiller les pistes, mais je suis convaincu qu'on ne saura, on ne connaîtra pas la vérité. Est-ce que c'est parce que c'est un proche de Mukwege? Je ne sais pas le dire, mais c'est vraiment regrettable.
Jean-Doum Massi, qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui à Mwanda, dans le Congo central?
Oui, l'actualité à Mwanda reste dominée par l'inquiétude qu'affiche la population autour de la progression des érosions de Kengeyaba et autres, avec près de 180 têtes recensées et qui menacent l'avenir du littoral congolais. Et si la côte atlantique dans sa partie congolaise n'est pas protégée, au niveau de la cité, c'est l'absence de caniveaux qui en est la cause. Mwanda, que vous savez de loin, n'a aucun caniveau. Et moins éploui, c'est une journée chômée et payée ici. Les principaux artères restent impraticables compte tenu de son pétrole. Cette situation ne se justifie pas, parce que l'argent du pétrole de Mwanda contribue à la hauteur de 7% au budget national.
Alors, Que disent les autorités?
Mais les autorités, que disent les autorités? Quand ils viennent ici, on les amène là-bas comme des sites touristiques. Les érosions de Mwanda ne sont pas des sites touristiques. Il faut qu'il y ait, les autorités doivent agir. C'est ça que la population exige ici.
Merci Jean Dombassi. Premier thème de ce soir, la famille régnante du chef coutumier feu Jean-Pierre Pandi Kamunasapu a désigné les successeurs du chef coutumier tué dans les affrontements avec la police au mois d'août dernier. Elle a par la même occasion annoncé avoir exhumé, retiré et enterré les restes du corps de leur frère dans la nuit du samedi 15 avril dans son village. Le représentant de la famille du chef Kamunasapu appelle tous les habitants du Kasaï central à la paix et met en garde ceux qui vont se servir du nom de Kamunasapu pour causer du tort à la population. On écoute ce membre de la famille du chef Kamunasapu tué au micro d'Emmanuel Elamegi.
Nous sommes venus répondre à l'invitation du VPM et nous avons abordé le problème de la restitution du reste du corps du fait Kamunasapu que nous avons déjà retiré et allé enterrer selon nos rites chez nous. Celui qui était décidé à assassiner, c'est Pandi Jean-Pierre. Nous, souvent chez nous, nous l'appelons prince. Celui-là est déjà décédé. Nous avons récupéré le reste, comme je viens de vous le dire. Le nouveau chef, c'est mon grand frère. Il s'appelle Kabea Jacques Ntumba Mupala. Le fils du fait Kamuina Sapun Tumba Mupala, c'est celui-là qui est actuellement notre répondant auprès de l'État. Maintenant, nous voulons la paix. Nous ne pouvons pas accepter que le nom de Kamuina Sapun soit comme un petit nom, ou même celui qui n'a pas la qualité de parler, il parle. Et même ceux qui ne peuvent pas même voir les cadavres de Kamuina Sapun réclament ça. Nous voulons la paix. Nous ne pouvons pas accepter que nos frères périssent en brousse jusqu'à aujourd'hui. Non.
J.R. Mokolo, je rappelle que vous êtes journaliste à Canal Congo Télévision. C'est une télévision qui met depuis Kinshasa. Peut-on parler de la fin du phénomène Kamuina Sapun avec la restitution du corps et l'enterrement des restes qu'on a trouvés du chef de coutumier tué?
Je pense que c'est vraiment prématuré de parler de la fin du phénomène Kamuina Sapun ou des théories que nous vivons dans les Kasaï, parce que à peine cette cérémonie d'exhumation du corps de Jean-Pierre Pandi et son enterrement de nouveau, et même la désignation de son successeur a été prise. Bon, on a quand même eu des échos dans d'autres terroirs dans les Kasaï qui avaient des violences qui continuaient. Donc je crois que Kamuina Sapun, c'est une nébuleuse, c'est devenu un phénomène. Il y a, selon par exemple les aveux du chef de la police nationale congolaise, le général Bisengimana, qu'il y avait même des policiers qui avaient déserté et qui s'étaient transformés en Kamuina Sapun. Donc il y a de la récupération qui est faite de ces noms-là de Kamuina Sapun. N'importe qui va se battre dans les Kasaï au nom de Kamuina Sapun. Donc il faut vraiment donner du temps au temps pour se rendre compte que ce phénomène a pris fin ou pas avec la désignation du nouveau chef. Mais je voudrais quand même revenir un peu en arrière.
Mais vous pensez que l'appel de la famille du feu Kamuina Sapun tué, cet appel à la paix ne sera pas suivi par les populations du Kasaï?
Ça va être difficile parce que ceux qui se battaient là, au-delà des proches de Kamuina Sapun, ne se battaient pas, en tout cas je crois, au nom de Kamuina Sapun ou sous les ordres d'un membre de la famille régnante. Donc ils le faisaient, je crois, à leur manière. Il serait peut-être question aux forces de sécurité de pouvoir travailler pour mater tous ceux qui continueront en tout cas à se battre après que la famille régnante et l'État congolais aient fait la paix. Mais je voudrais quand même saluer l'action du vice-premier ministre Emmanuel Chadari qui a amené une autre approche qui nous rapproche, si je peux m'exprimer ici, de la solution de cette question. Parce que c'est lui qui était là avant lui, avait une approche militariste, et que Jean-Pierre Pandi, le Kamuina Sapun qui a été tué en août dernier, n'avait même pas d'armes, donc ne menaçait pas vraiment, ne représentait pas une menace sérieuse pour l'État congolais, mais on l'a tué brutalement, et ce qui a provoqué cette révolte, et cette révolte-là a été récupérée par certaines personnes indignées pour transformer les Kasaï vraiment en un mouroir, en un champ de bataille avec un nombre déterminé des charniers qui sont découverts jusqu'à présent.
Claude Molicho, journaliste à la RTNC, chaîne nationale. Vous êtes également coordonnateur des communicologues du 3e millénaire. Une lueur d'espoir pour l'espace Kasaï après la restitution du corps et la désignation du nouveau chef.
Oui, il faut toujours espérer. On croit que vraiment, on s'achemine vers la paix, la pacification de l'espace Kasaï. Mais ici, il faut souligner une chose, Madame Kelly. C'est vrai que ça a commencé par cet assassinat du chef de la famille régnante, Kamuina Sapun, mais juste après, l'affaire a été récupérée par les acteurs politiques.
Vous avez des preuves?
Vous vous souvenez qu'on a cité les députés nationaux qui finançaient ces mouvements et des jeunes.
Mais il n'y avait pas des preuves.
On a cité les quelques députés nationaux avec des preuves parce que l'argent circulait et arrivait à des postes d'initiation parce que ce sont des pratiques fétichistes qui s'opèrent là-bas. Dans l'espace Kasaï, on regroupe des jeunes gens, d'autres sont des désœuvrés, d'autres même qui sont scolarisés, mais donc ce sont des mineurs dans l'ensemble, ce sont des mineurs qui sont drogués et sont livrés à des pratiques fétichistes, et puis on les largue comme ça pour dire que non, voilà, vous êtes invulnérables et vous allez gagner et nous allons renverser le pouvoir à Kinshasa. Et vous savez que le mouvement est arrivé jusque dans la province de Lomami, jusqu'à Kamako, et aujourd'hui on parle de Mweka. Donc c'est pour vous dire que il y a des gens qui sont derrière cela. Mais ce n'est plus la famille régnante qui réclamerait le corps ou l'exhumation du corps de Kamana Sampou. Donc c'est un aspect très très important aujourd'hui, la politisation de ce phénomène Kamana Sampou. Et je pense qu'avec les dispositions...
Et plus... donc malgré cette restitution du corps, la désignation du nouveau chef, le mouvement risque de continuer.
Moi je pense qu'il y a des velléités de certaines personnes ou certaines personnalités qui cherchent à envenimer la situation et à faire exploser la situation.
Merci, manager à la radio communautaire de Mwanda, émettant à Mwanda au Congo central. J.R. Mukolo l'a dit tout à l'heure, le phénomène Kamwina Sampou n'a pas été bien géré par le gouvernement, mais aujourd'hui quand même, on est arrivé à un compromis, le corps a été restitué, on a un nouveau chef Kamwina Sampou. La situation d'aujourd'hui pourrait-elle contribuer au retour de la paix dans le Grand Kasaï?
Oui, merci beaucoup. Je pense que exhumer, retirer, puis enterrer le corps, c'est une très bonne chose. Et d'ailleurs, nous saluons l'action pacifique, mais aussi salvatrice, menée par le vice-premier ministre Chadari. Et puis, en dehors de ça, il faut rapidement prendre un arrêté pour introniser M. Jacques Kadéga selon les dites et Poutine. Et ensuite, c'est lui-même maintenant, M. Jacques Kadéga, qui doit s'impliquer sur le terrain sous la facilitation des différentes autorités là-bas pour essayer maintenant de descendre sur le terrain et chercher à ramener la paix dans cet espace du Grand Kasaï. J'ai dit ça la fois passée, bientôt c'est l'examen d'État, et puis d'ici là, ça sera le go des enrôlements là-bas. Bon, s'il n'y a pas la paix, et si les torchons continuent à brûler là-bas, je ne vois pas qu'est-ce qui va se passer. Mais le fait d'exhumer, c'est une très bonne chose pour le moment. Le vice-premier ministre doit publier rapidement l'arrêté pour introniser ces messieurs selon les dites et Poutine.
Nous apprenons quand même, Jean Mombassi, que l'arrêté qui désigne Jacques Kabeya Ntumba, chef coutumier de Bajila Kasanga, pour succéder à Jean-Pierre Mpadi, a été signé, et ça c'est selon le conseil en communication du ministre congolais de l'Intérieur.
Ah bon, si c'est déjà signé, c'est une bonne chose. Bon, pour le moment, moi je pense qu'on doit maintenant laisser la place à des négociations pacifiques autour des différentes communautés pour arrêter quand même la guerre à ce niveau-là. Parce que si ça continue, bon, à moins que ces gens-là puissent avoir d'autres agendas cachés, mais si c'était réellement autour de la récupération de ces corps pour que ça soit enterré selon les dites et Poutine, moi je pense que rien ne justifie aujourd'hui qu'on puisse encore entendre parler qu'il y a des exactions dans les grands Kassan avec les Kamwina Sampou.
J.R. Mukolo, ce conflit qui a commencé depuis le mois d'août dernier, ça va faire presque 8 mois, aujourd'hui a occasionné des terribles violences et en fait plusieurs centaines de morts. L'ONU a identifié à ce jour 40 fosses communes dans les provinces du Kasaï et réclame une enquête indépendante.
Personnellement, je souscris à cette demande des Nations Unies parce que, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur vie. Il ne faut pas que ces gens-là meurent comme ça gratuitement parce que quelqu'un n'a pas bien géré, par exemple, ces dossiers, ou même pour réprimer les premiers miliciens Kamwina Sampou qui réclamaient les corps de leur chef, on a par exemple utilisé les forces armées au lieu par exemple d'utiliser la police anti-émeute, tout ça. Donc il y a eu vraiment un usage disproportionné de la force, et on a même vu des vidéos qui montraient que même des enfants, même des femmes sans armes ont été tués. Et que par exemple, chez nous ici, bon, oui, on nous dira que l'auditorat est en train d'enquêter, mais est-ce que l'auditorat ne risque-t-il pas d'être juge parti, de pouvoir protéger les préposés de l'État? Je crois que seul une enquête internationale pourra, en tout cas, nous donner la vérité, faire toute la lumière sur cette affaire et qu'il y ait des coupables de ces crimes qui se retrouveraient même dans les rangs des forces de sécurité ou même dans les rangs des milices comme on a ça pour puissent en tout cas répondre de leurs actes, parce qu'il y a un risque, comme l'a dit le Conseil de sécurité des Nations Unies à travers les bureaux du commissaire aux droits de l'homme, que si par exemple on estime que sur le plan interne ici, il n'y a pas une enquête indépendante qui a été menée, qui est des coupables sanctionnés, on risque de transférer les dossiers à la CPI. Vous savez par exemple que le Conseil de sécurité des Nations Unies a la compétence de saisir les bureaux du procureur de la CPI pour que vraiment des comptes soient réclamés à tous ceux qui, des preuves de loi, ont contribué à toutes ces violences dans les Kasaï et qui ont endeuillé de nombreuses familles. Il faut qu'ils répondent en tout cas de leurs actes.
Claude Molicho, le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a affirmé que ces violences démontrent encore davantage le besoin de suivre de près la situation. Il prévient que faute d'enquête nationale sur ces actes de violence, il demanderait une enquête internationale. 40 fausses communes, c'est quand même trop.
Oui, c'est quand même trop, madame. Mais ici, on ne refuse pas une enquête soi-disant internationale. Mais vous savez que le gouvernement congolais est en train de suivre aussi de près. C'est pas seulement au niveau du haut commissaire, parce que le haut commissaire des Nations Unies des hommes reçoit les rapports du violent congé des Nations Unies aussi à Kinshasa. Mais il faut que les Congolais comprennent comment travaille le bureau congé des Nations Unies aux droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, les gens voudraient seulement jeter les mauvais sorts au gouvernement pour dire que non, ce sont les forces de l'ordre qui ont massacré. Non,
c'est l'armée d'air qui est mise en
cause. Non, il ne faut pas dire ça. Parce que les Congolais doivent savoir que le bureau congé des Nations Unies aux droits de l'homme a une façon spécifique de travailler. On va documenter, et il documente les faits infractionnels lorsqu'il s'agit de la participation d'un officiel. C'est ça. Mais si c'est un Kamana Sampo ou un Kuluna qui a massacré, ou soit un groupe de Kamana Sampo qui a massacré 50 personnes, comme c'était le cas avec les 39 policiers qu'on a tués, là, le bureau conjoint des Nations Unies ne peut pas documenter. Parce qu'il n'y a pas un officier là.
Qu'est-ce que vous faites croire?
C'est ça la différence.
Qu'est-ce que
c'est
vous faites croire? C'est là, Claude Molicho.
Le bureau congé des Nations Unies, c'est ça sa méthodologie de travail. Donc, s'il y a par exemple un officier de la police ou de l'armée qui est impliqué dans des exactions, là, il peut documenter et il fait son rapport. Mais si c'est je parle vraiment de Kuluna. On a vécu
le bureau
Kuluna,
a mené des enquêtes. Il mène des enquêtes.
Bien sûr.
Avant de faire toute déclaration.
Bien sûr. En suivant, bien sûr, sa méthodologie de travail. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me dire, Madame Kelly, que les Kamana Sampo n'ont pas tué dans les Kasaï. Et en ce qui concerne les forces de l'ordre qui seraient impliquées dans les exactions pendant les opérations, on a déjà arrêté cette personne à Mujimaï. Les hauts magistrats sont sur le terrain. Ce sont les techniciens que le gouvernement a envoyés sur le terrain. Il ne faut pas dire ici que non, ce sont des néophytes ou ce sont des gens qui ne connaissent rien sur la réalité ou qui n'ont jamais travaillé sur ces cas-là. Il y a déjà des cas précédents, des cas jusqu'où bien soit des cas similaires qui ont déjà fait l'objet des enquêtes des autorités congolaises, des hauts magistrats congolais. Et aujourd'hui, il faut que les Congolais sachent que les Kamana Sampo, ils ont tué beaucoup de gens aussi.
Jean Dombassi, quelle lecture vous faites par rapport à la déclaration du haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a annoncé mercredi dernier la découverte d'au moins 17 nouvelles forces communes dans la province du Kasaï, ce qui porte à ce jour à 40 le nombre total des forces communes documentées par l'ONU dans les provinces du Kasaï central, du Kasaï et du Kasaï oriental depuis août 2016.
Bon, dans ce dossier, moi je pense qu'on ne peut pas travailler en ordre dispersé. Et ce que moi je demande, c'est d'abord de faire confiance à l'auditorat militaire de la République démocratique du Congo qui est en train d'enquêter là-dessus. Et nous attendons les rapports.
Jean Dombassi, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort?
Oui, sur ce dossier, je pense que nous devrons faire confiance d'abord. Au bureau de l'auditorat qui est en train de faire un travail d'enquête et ensuite nous allons tirer à toutes les conclusions quoi. Donc n'agissons pas dans la précipitation. Je sais que le bureau du Haut Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme a publié un rapport, mais ça doit être quand même certifié sur terrain Voilà ce que je peux dire à ce sujet.
Merci Jean Nombassi. Jérôme Mokolo, rapidement, vous n'étiez pas d'accord tout à l'heure avec Claude Molichaud lorsqu'il parlait de rapports.
Je me rends seulement compte que Claude Molichaud ne lit pas en tout cas les rapports des BCNDH. Parce que souvent, quand ils publient les rapports, qu'est-ce qu'ils disent? 60% par exemple des crimes ont été commis par les forces de sécurité et un tel pourcentage par les groupes armés. Donc je crois que même dans ce qui concerne les fosses communes, les violences dans les Kassai, toutes les parties ont été épinglées. Et puis en ce qui concerne par exemple l'enquête de l'auditorat, je ne suis pas convaincu que nous ici au Congo nous avons une expertise par exemple pour pouvoir mener des enquêtes dans une fosse commune déterminée par exemple que telle personne a été tuée dans telle ou telle autre condition.
Vous minimisez la capacité
mais je me rends compte que nous n'avons pas cette capacité. Il serait bon que nous puissions travailler en collaboration avec les experts des Nations Unies qui peuvent par exemple nous aider à déterminer dans quelles conditions telle ou telle personne a été tuée. Vous connaissez quand même un résultat qui ne sera pas contesté par l'opinion.
Oui madame, je vais réagir parce que d'abord je constate que mon confrère J.R. Mokolo veut nous montrer que ce qui vient du dehors c'est ce qui est rationnel. Non, il ne fait pas confiance aux magistrats congolais. Et ça, c'est vraiment une aberration. Nous avons des techniciens ici en République démocratique du Congo, dans tous les domaines, même si les conditions de travail sont difficiles. Mais nous avons des gens qualifiés pour mener ce genre d'enquête. Ils sont là et ce sont ces gens-là qui ont été envoyés sur le terrain. De deux, les problèmes du rapport du bureau conjoint élaboré par le bureau conjoint des Nations Unies. Moi qui vous parle, j'ai eu à bénéficier plus de 3 formations du bureau conjoint national des droits de l'homme pour que là où on nous explique comment il fonctionne. Les gens ne comprennent pas. Très souvent, c'est lorsqu'il y a un officier qui est impliqué dans les exactions ou dans les violations des droits de l'homme que ces actes sont documentés.
Merci
par les bureaux.
Et
les Congolais doivent savoir et on laisse tomber. On a vu le cas de Kourouna ici. Quand les Kourouna a tué les gens, le bureau conjoint n'a pas documenté. Mais c'est lorsqu'il y avait un officier de la police qui était livré ou soit quelqu'un, c'est là, c'est au moment-là que le bureau conjoint documenté.
Merci Claude Molichaud. Deuxième et dernier terme de ce soir, dans un décret signé le 4 avril dernier, le Premier ministre sortant, Sami Badibanga, a de nouveau autorisé l'importation en RDC des véhicules de plus de 10 ans, mais n'excédant pas 20 ans. Une mesure qui vient abolir celle de l'ancien chef du gouvernement, Matata Mponyo, qui interdisait l'entrée au pays des voitures de moins de 10 ans. Le vice-premier ministre en charge des transports, José Makia, affirme que la décision d'importer des véhicules de plus de 10 ans en RDC vise à aider la population. Il s'est ainsi justifié mercredi 19 avril dans une interview accordée à Radio Okapi. On l'écoute au micro d'Innocent Linda.
Il se fait que certains véhicules de moins de 10 ans ne savent pas rouler dans certains coins de la République. Nous prenons par exemple les véhicules qui sont faits sur base d'électronique, ne peuvent pas rouler sur des routes à terre. Vous voyez une ville comme Boma, Matadi, Kassindi, vers l'Est, il n'y a plus d'activité. L'État n'est pas là pour pénaliser sa population. L'État est là pour aider la population à subvenir à ses besoins. Et il est vrai que cette mesure pourra en quelque sorte booster aussi notre économie dans ce secteur. Le transport. Mais nous avons entouré ces décrets avec plusieurs mesures, c'est-à-dire le contrôle technique qui doit d'abord préalablement être fait au niveau du pays importateur. Il y aura une agence qui va s'occuper de tous les véhicules qui viennent en République démocratique du Congo pour voir si réellement ces véhicules sont conformes aux normes de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le contrôle technique.
Claude Molichaud, je rappelle que vous êtes journaliste à la RTNC, la chaîne nationale et coordonnateur des communicologues du 3e millénaire. Comment vous analysez cette nouvelle mesure du gouvernement congolais?
En tout cas, madame, nous saluons cette décision du gouvernement parce que on a constaté que vraiment les activités étaient vraiment paralysés dans tous les postes frontaliers de la République démocratique du Congo parce que il était interdit d'importer les véhicules de plus de 10 ans. Ici, on a à l'époque, le Premier ministre Matata Mponyo a fait allusion à l'esprit de vie, il fallait sécuriser les Congolais, surtout les Kinois, c'était bien. Mais moi, je me posais la question même à l'époque, je me disais, est-ce que c'était les véhicules qui causaient les accidents ou les chauffeurs? Parce qu'un véhicule est conduit par un chauffeur ou un conducteur. Si les conducteurs se comportent très mal sur la voie publique, il peut y avoir des accidents. S'ils consomment les soupes natolo au volant pendant qu'ils sont en train de conduire sur la voie publique, il peut arriver à des accidents.
Mais quand il manque de contrôle technique, le véhicule
Le problème, c'est celui-là. Nous avons un service de contrôle technique qui dépend du ministère des Transports. Mais ce service doit faire son travail. Si ce service ne fait pas son travail, il y a des véhicules qui entrent aussi au Congo depuis de 10 ans, mais qui sont encore en bon état. Et si ça ne répond plus, parce qu'il y a un problème de frein ou un problème technique, là, il faut les déclasser. Mais les problèmes sont au niveau du contrôle technique où les agents de l'État ne font pas correctement leur travail. C'est ça les problèmes. Mais aujourd'hui, vous voyez comment l'ORATRA est paralysé avec des services connexes comme la DGDA, l'OCC, la DGI. Donc, dans des postes frontaliers, l'argent ne rentre plus dans les caisses de l'État parce qu'il y avait cette décision-là. Et les Congolais ne peuvent plus se procurer de véhicules parce qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne peut pas dire le contraire. Ce sont des véhicules d'occasion qui circulent à Kinshasa. Sur 100%, je parle de 70 ou 80% des véhicules d'occasion.
Alors, le ministre des Transports dit que ça va booster l'économie congolaise. Vous êtes du même avis que lui, que le fait d'importer les véhicules de plus de 10 ans boosterait l'économie du pays.
Moi, je pense que le circuit va revenir à la normale parce que à chaque poste frontalier, il y a des services qui fonctionnent à la frontière. À Matadi, à Boma, à Kasumbalesa, à Kassindi, partout. Et ça veut dire que là-bas, il n'y avait plus de vie. Si vous allez à Boma aujourd'hui, là où on dédouane des véhicules, c'est vraiment la paralysie totale. Donc, l'ONATRA n'a plus de recettes, la DGDA, la DGI, et l'OCC. Donc, moi j'estime que cette décision a vraiment été très très attendue. Ça va essayer un peu de stimuler et puis de recréer la confiance et l'emploi chez les jeunes. Et puis, l'argent va encore circuler, ça va susciter aussi des recettes pour les trésors publics.
Gilles Moukolo, journaliste à Canal Congo Télévision, vous êtes aussi d'avis que ça va booster l'économie congolaise?
Je ne suis pas en droit de cet avis-là parce qu'à ce que je sache, l'économie congolaise n'est pas seulement alimentée par les recettes venant de l'importation des véhicules d'occasion. Ce que nous avions dans ces pays, par exemple, des usines de fabrication, de montage de véhicules neufs, General Motors, Enzal, Ford, tout ça, dont les gens achetaient des véhicules neufs dans ces pays et qui n'avaient pas beaucoup de véhicules d'occasion, à ce moment-là, l'État faisait des recettes. Donc je ne crois pas que tout un pays doit vivre seulement des recettes produites par l'importation des véhicules d'occasion. Ça ne tient pas la route. Donc il y a d'autres raisons sûrement qu'on a voulu, je ne sais pas, faire plaisir ou satisfaire à certains douaniers.
Mais la décision en elle-même, elle est bonne ou mauvaise?
Bon, elle est bonne en tout cas pour ceux qui profitent de ces commerces-là, des véhicules d'occasion, mais pas pour tous les Congolais. Parce que, à ce qu'ils sachent, si vous allez, par exemple, dans ces ports-là, s'il y a aujourd'hui paralysé d'activité économique, c'est parce que sur le plan international aussi, nous subissons les soubresauts, les contre-coups de la crise internationale. Donc, on va voir dans les prochains jours si véritablement on va avoir des recettes qui vont se multiplier par 10 parce qu'on a réautorisé de nouveau que des véhicules vieux de plus de 10 ans puissent venir dans notre pays. Et puis, ça pose aussi un problème quand j'ai suivi les ministres des Transports dire que voilà, dans certains coins, nos routes sont faites en terre et que les véhicules modernes ne peuvent pas rouler là-bas. Ça démontre que, par exemple, les 5 chantiers n'ont pas été concluants. Parce que ça veut dire que nos routes sont en très mauvais état et que c'est un bilan vraiment négatif des 5 chantiers. Ça démontre aussi que la fameuse révolution de la modernité n'a pas été aussi bien actionnée que nous sommes aujourd'hui pratiquement dans la révolution de l'archaïsme. Au lieu, par exemple, que les Congolais soient habitués à des véhicules modernes, électroniques, on dit non, il faut que nous recourions à des véhicules de seconde main qui sont fabriqués il y a plus de 10 ans, tout ça. Donc ça veut dire qu'il se pose un véritable problème dans notre pays en termes de la voirie, en termes de la modernisation du charroi automobile. ce qui était fait par Augustin Matata Pogno. Mais je pourrais quand même être d'accord sur les contrôles techniques évoqués par les ministres avant de pouvoir faire entrer un véhicule dans notre pays, parce que les accidents ne sont pas provoqués que par le problème technique des véhicules. Il y a aussi, par exemple, l'état de la route, il y a le non-respect du code de la route, il y a, par exemple, aussi l'état d'ébriété du chauffeur, comme l'a évoqué Claude Molicho, KMB. Ce qu'on voudrait, je crois, selon moi, il faut aussi qu'on puisse s'attaquer, par exemple, au fait que nous sommes un pays où les gens roulent à droite. On nous amène des véhicules à volant qui se trouvent à droite, donc contraire même à notre code de la route. Et demain, nous risquons d'avoir plus de véhicules avec des volants à droite qu'avec des volants à gauche. Donc ça pose un problème sur le code de la route. Donc c'est même la base aussi de beaucoup d'accidents. Parce que quelqu'un qui vous roule avec un véhicule à volant à droite ne sait pas véritablement rouler correctement dans les carrefours, tout ça. Donc il faut qu'on s'occupe de ces problèmes-là aussi, de ces véhicules qui inondent en tout cas notre marché.
Merci, Guillaume Mokolo. Jean Dombassi, manager de la radio communautaire de Mwanda et Mito. À Mwanda, au Congo central, une bonne nouvelle pour la province du Congo central.
Oui, une très bonne nouvelle que la population a saluée, parce que vous savez que l'arrêté signé en 2012 par Batata Pogno était vraiment suicidaire pour cette province. Donc c'est comme une poule qui a écrasé ses propres poussins. Et sur le plan social, les ports de Bom et de Matadi constituent une grande entreprise aujourd'hui dans le Congo central. Les trois quarts de la population qui habitent vivent de ces deux ports, chargement, déchargement, commissionnaire en douane, informel avec les cartes d'accès, les hôtels faisaient les pleins, mêmement pour les restaurants et débits de boissons. Je vous donne l'exemple du bateau Panda qui transportait entre 300 à 400 véhicules. Le parc d'automobiles de l'Onatra était rempli, tout le monde s'est retrouvé, la douane, tout comme l'Onatra, faisait énormément de recettes. Et pendant la mise en application de cet arrêté, je vous dis, nous avons senti une sécheresse sur le plan financier et dans le Congo central, pas de débouchés pour les jeunes, occasionnant la recrudescence du banditisme. Nous avons même vu des foyers se disloquer à Boma et Matadi. La prostitution s'est amplifiée, les taux de remplissage des hôtels et restaurants sont descendus à 20, 10, voire 0%, et par contre, ces opérateurs économiques devraient payer énormément beaucoup de taxes, sans oublier les charges d'exploitation. Et plusieurs établissements ont affaibli et les autres ont carrément fermé. Donc cet arrêté d'Augustin Matata était vraiment suicidaire pour la province. Mais aujourd'hui, je sais que c'est la paix. À Mwanga, à Boma, à Matadi, et la population a applaudi. Et je sais que la vie va bientôt reprendre.
Merci Jean Dombassi. C'est par vous que nous allons mettre fin à cette émission. Merci aux confrères d'avoir répondu à notre invitation. Claude Molicho, J.R. Mokolo et même vous, même Jean Dombassi. Merci à Guy Massé qui était à la réalisation. La prise de son était assurée par Héritier Sidiakala au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.